Bonjour, nous sommes des élèves du lycée Adrien Testu au Chambon-Feugerolles, plus précisément les éco-délégués. Les éco-délégués réunissent des représentants de toutes les classes. Nous mettons en place des projets sur le développement durable au sein de notre lycée. Radio Ondaine nous a accompagnés dans des ateliers pour la préparation d'une série de tables rondes radiophoniques avec des intervenants qui agissent au quotidien en faveur de l'environnement. Aujourd'hui, nous recevons Lilian Roux, co-gérant de Compostonde, et nous allons aborder la valorisation des déchets alimentaires. Bonjour Monsieur Roux, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour à vous, merci d'avoir pensé à nous et pensé à Compostonde pour cette interview. Écoutez, je m'appelle Lilian Roux, je suis co-directeur de la coopérative d'intérêt collectif Compostonde. On travaille sur la gestion des déchets alimentaires, que ce soit ceux des professionnels, des institutions, des écoles, des lycées, comme chez vous, ou des particuliers sur Saint-Étienne Métropole, la Loire et la Haute-Loire. Pour ma part, je suis co-directeur de la coopérative, j'ai 28 ans, et je travaille à essayer de faire en sorte de redonner vie à la Terre en retravaillant les déchets alimentaires et en les recyclant.
Qu'est-ce que le compost ?
Alors, le compost, c'est un produit que l'on va obtenir en mélangeant, en tout cas chez nous, chez Compostonde, des déchets alimentaires et des déchets verts, donc les déchets de la taille des arbustes, par exemple, comme ce que font les paysagistes. On va mélanger tout ça, et en fait, avec tout un ensemble de procédés, par exemple le fait de l'oxygéner en les retournant, ou en gardant des niveaux d'humidité suffisant, donc en les arrosant, en arrosant des tas en fait de mélange de déchets verts et de déchets alimentaires. Au fur et à mesure, il y a un processus naturel qui va se mettre en place, qui va transformer les déchets alimentaires et les déchets verts en compost. Et donc ce compost, c'est un engrais naturel qui sert pour les sols à faire mieux pousser les plantes et faire en sorte que la vie soit plus présente dans les sols.
Pouvez-vous nous présenter la coopérative Compostonde ? Où êtes-vous situé et à quoi cela ressemble ?
Alors, la coopérative Compostonde, c'est une entreprise. Donc, c'est pas une association, c'est une entreprise donc qui sert à rendre des services à des clients et notamment à des associés. Elle a été créée en 2015 à la suite d'une initiative qui avait été portée dans le lycée agricole Moravel à Villars. Voilà. Et maintenant, elle est située principalement au Chambon-Feugerolles, donc en allant vers Emmaüs-Firminy, c'est sur la commune du Chambon-Feugerolles. Et à quoi ça ressemble ? Ça ressemble en fait tout simplement à une plateforme, un endroit où sont stockés des déchets verts, avec un endroit pour les peser, et des déchets alimentaires, qui sont eux pour le coup sous une serre, une grande serre de 800 mètres carrés, sous laquelle sont déposés les mélanges entre les déchets verts et les déchets alimentaires pour leur permettre de se composter.
Quels services proposez-vous et qui sont vos partenaires ?
Alors, on propose différents services, mais le principal, c'est celui de la gestion des déchets verts et des déchets alimentaires. Pour les déchets alimentaires, on va avoir un service de collecte. Donc, en fait, on va venir intervenir directement dans les établissements. À l'arrière de la cantine, il y a le local poubelle, et donc on va par exemple échanger un bac plein de déchets alimentaires bien triés par un bac vide propre et désinfecté pour pouvoir tout simplement enlever ces déchets-là qui sont issus des restes alimentaires mais aussi des restes de préparation, par exemple les os ou alors les épluchures ou des choses comme ça.
Comme nous avons pu le constater depuis quelques mois, nous avons reçu des poubelles pour collecter nos déchets alimentaires. Pourquoi est-ce important de trier ces déchets alimentaires ?
Alors, c'est important de trier ces déchets alimentaires parce que cela permet de du coup alimenter la ressource en compost pour le territoire. Donc, comme je disais juste avant, pour enrichir les sols. Ça, c'est du point de vue un petit peu global et collectif. Mais du point de vue individuel, il y a aussi d'autres avantages au fait de trier et de bien trier surtout ces déchets alimentaires. C'est que, en fait, la fraction, la part compostable de nos déchets, c'est celle qui, potentiellement, dans notre poubelle habituelle, est celle qui pose le plus de soucis au niveau au niveau de la conservation de nos déchets, au niveau des odeurs, etc. Donc si on trie bien nos déchets alimentaires, et ben en fait tout le reste de nos poubelles ça va plus du tout sentir, ça posera plus du tout de soucis. Par ailleurs, notre poubelle à nous qu'on a chez nous, qui est pas forcément lavée de façon régulière, et ben en fait elle sera plus sale du tout parce qu'on n'y mettra plus que des déchets inertes. Donc en fait le fait de séparer la partie déchets alimentaires de la partie déchets inertes non recyclables de nos déchets, et ben ça a donc plusieurs avantages.
Combien de tonnes de déchets alimentaires collectez-vous par semaine?
Alors nous, chaque semaine, on va collecter environ 40 tonnes de déchets alimentaires, mais à cela s'ajoutent ceux qu'on nous amène. Donc il y a une partie des déchets alimentaires que nous, on va collecter nous-mêmes, donc avec nos camions et avec le procédé que je vous présentais juste avant, où on échange les bacs. Mais il y a aussi certains clients, certains partenaires qui nous amènent directement à la plateforme des déchets alimentaires. C'est le cas de la métropole de Saint-Étienne pour les déchets des particuliers, ou c'est aussi le cas de différents gros producteurs qui, eux, sont équipés de leurs propres infrastructures, leur propre matériel, on va dire, de transport, et qui nous amènent des déchets aussi. Et c'est à peu près 40 tonnes aussi.
Combien de tonnes de compost créez-vous par semaine? Qu'est-ce que vous en faites précisément?
Alors, en fait, quand on récupère des déchets alimentaires, on les mélange aux déchets verts, comme je le disais juste avant. La proportion, c'est à peu près de 50% déchets alimentaires, 50% déchets verts en poids. Donc, ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est de comprendre qu'est-ce qui reste après le processus de compostage de ces 50% de déchets alimentaires et 50% de déchets verts. En fait, durant le processus de compostage, il va y avoir une évaporation de l'eau qui est présente dans les végétaux, mais surtout dans les déchets alimentaires. Parce qu'en fait, par exemple, quand je mange une tomate, il y a une grosse proportion d'eau. Et donc, quand le déchet alimentaire est issu, par exemple, d'une tomate, il y a entre 60 et 80% d'eau. Donc, quand je vais faire rentrer une tonne de déchets alimentaires, je vais la mélanger à une tonne de déchets verts, et ben à la fin, ça va me faire à peu près une tonne de compost final. Je vais perdre à peu près la moitié du poids qui était déjà présent dans les déchets qui sont rentrés, tout simplement par l'évaporation de l'eau qui était présent déjà à l'intérieur des déchets. Donc, si j'envisage que j'ai 40 tonnes de déchets alimentaires qui rentrent, eh ben j'aurai à peu près 40 tonnes de compost.
Et qu'est-ce que vous en faites du coup de ce compost?
Ce compost, il est destiné à nourrir les sols et à être implémenté dans les sols du territoire. Donc, on a trois types de personnes qui utilisent le compost. On a en premier lieu les agriculteurs qu'ils soient bio ou pas bio. Ceux qui sont bio, ils peuvent l'utiliser. Ils sont autorisés à utiliser notre compost. Donc, par exemple, j'imagine un maraîcher, quelqu'un qui va produire des légumes ou un arboriculteur qui va produire des fruits. Il va utiliser le compost pour le mettre sur ses sols, le mélanger à sa terre pour enrichir sa terre en éléments fertilisants et en éléments organiques. Ça, c'est le premier utilisateur. Le deuxième utilisateur, ça va être un autre professionnel, ça va être les paysagistes ou les services espaces verts des collectivités. Et ben, par exemple, eux, dans un parc public ou alors dans un espace nouvellement arboré, ils vont mélanger pareil le compost à la terre et voilà, ils vont faire un petit peu pareil que les maraîchers, mais pas dans un but alimentaire cette fois-ci, mais dans un but paysager. Et les troisième types de personnes, c'est les particuliers. Ils viennent à la plateforme récupérer du compost, soit en sac qu'on fabrique nous-mêmes, soit on charge directement du compost en vrac dans leurs remorques. Et ces personnes-là, ils vont utiliser le compost sur leur jardin, dans leur potager, ou alors s'ils ont des parterres fleuris, pareil, ils peuvent l'utiliser.
Que pensez-vous du gaspillage alimentaire aujourd'hui?
Alors le gaspillage alimentaire, c'est un souci pour tout le monde parce que déjà du point de vue éthique, c'est dommage d'avoir produit de la nourriture tout au long de la chaîne de production alimentaire et notamment quand elle arrive dans les assiettes, c'est Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, qui ont fait des efforts pour l'amener jusque dans l'assiette. Donc, c'est dommage de le gaspiller. Mais surtout, c'est un coût, en fait, pour les établissements. Je prends l'exemple d'un établissement scolaire, une cantine. En fait, le gaspillage alimentaire, ça peut avoir un coût très important. Et donc, si on réduit le gaspillage alimentaire, on peut envisager le fait d'acheter moins de choses, mais d'acheter des choses de meilleure qualité, acheter moins de denrées alimentaires, mais acheter des denrées alimentaires de meilleure qualité, par exemple, plus de bio ou plus de local, et faire des plats finalement qui sont meilleurs et que les gens vont plus apprécier, que les élèves et les professeurs qui mangent à la cantine vont plus apprécier. Donc en fait, le gaspillage alimentaire, c'est un petit peu comme une sorte de cercle vicieux. Plus on gaspille, plus ça coûte et moins on a l'occasion de faire changer les repas et faire en sorte que les repas soient de plus haute qualité. Alors que si on gaspille moins, et ben en fait, on va se rendre compte que moins on va gaspiller, plus on va pouvoir investir dans la qualité des produits qu'on va mettre dans les assiettes des personnes, et plus ce sera bon et moins les gens vont gaspiller. Donc je pense que c'est une dynamique dans laquelle on peut tous se mettre en marche, quoi. C'est pas une fatalité.
Comment sensibiliser au gaspillage alimentaire?
La première chose, de mon point de vue, ça passe par l'organisation du self. En tout cas, je vais prendre l'exemple d'un self dans une cantine. L'organisation du self dans une cantine, elle paraît immuable comme ça, mais en fait, il y a plein de choses qu'on peut changer. On peut travailler sur la taille des portions, le fait de demander aux mangeurs s'ils ont faim ou pas trop faim, et adapter les portions de cette manière-là. Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est pas fait dans tous les endroits. Ensuite, il y a d'autres éléments. Par exemple, le fait pour le pain, le fait d'avoir de ne pas proposer le pain en début de repas, enfin en début de chaîne de self, mais le proposer à la demande et à volonté dans la salle. De même pour les desserts, parce qu'on ne sait pas forcément si on aura faim à la fin du repas, au moment où on prend le dessert sur la chaîne du self. Et donc, potentiellement, proposer un bar à dessert directement dans la salle de restauration, ça permet d'avoir des personnes qui vont y aller à la fin quand ils ont faim, et s'ils n'ont pas faim, et ben ils le prennent pas, et donc s'ils l'ont pas pris à la base, et ben ils le gaspillent pas. Donc ça, c'est un premier point, l'organisation du service dans les selfs. Après, la sensibilisation au gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qu'on peut aussi réaliser du côté des mangeurs. Donc là, je parlais plutôt du service juste avant, mais du côté des mangeurs, on peut travailler sur la question du gaspillage alimentaire en sensibilisant sur qu'est-ce que ça implique, le fait d'avoir apporté jusqu'à vous des denrées alimentaires qui sont cuisinées, le fait d'avoir aussi des ateliers de cuisine pour se rendre compte un peu de ce que ça signifie de cuisiner pour des grands groupes, ça peut aussi donner plus de valeur dans la perception des mangeurs, ça donne plus de valeur au travail des cuisiniers, et donc potentiellement ça peut permettre de plus conscientiser sur cette question de la valeur de l'alimentation, et donc par voie de conséquence sur la perception du gaspillage alimentaire par les mangeurs.
Comment diminuer ces déchets alimentaires?
Alors à la maison, comment diminuer ces déchets alimentaires? Et ben déjà avoir peut-être plus de une meilleure conscience de ce qu'on a de nos besoins alimentaires. Essayer de ne cuisiner de d'être plus attentif qu'avant sur les quantités dont on a besoin pour se sentir bien après avoir mangé. Ça, c'est le premier point. C'est souvent assez négligé, en fait, hein. Il y a beaucoup de gens qui prennent les doses, par exemple, de pâtes qui sont marquées par les fabricants sans vraiment se poser la question de ce que eux ils veulent. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le fait de recuisiner, par exemple, les restes alimentaires, les sauces ou les choses comme ça. Quand on n'a plus faim, et ben en fait, on n'est pas obligé de jeter. On peut aussi recuisiner d'une autre manière les choses qu'on a à cuisiner une première fois. Et un troisième élément qui peut être intéressant, c'est de retravailler ce qu'on considère comme déchets alimentaires, par exemple les épluchures ou les os ou les peaux des viandes pour ceux qui mangent de la viande, les retravailler dans des bouillons ou des choses comme ça. Et donc ça permet de finalement avoir quasiment aucune perte sur ce qu'on aura cuisiné et sur les produits qu'on va travailler, qu'on va utiliser pour manger.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Roux, pour cette interview.
Merci à vous, c'était un grand plaisir.